Voici les deux textes liturgiques pour ce cinquième dimanche après l'Épiphanie. L'épître est tiré de saint Paul aux Colossiens. Mes frères, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant mutuellement si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout, ayez la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous abondamment en toute sagesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs par l'action de la grâce. Quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit aux Paul, aux foules, cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé du bon grain dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussée produit son fruit, alors l'ivraie parut. Et les serviteurs du père de famille s'approchant lui dirent, « Seigneur, n'avez-vous pas semé du bon grain dans votre champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est l'homme ennemi qui a fait cela. » Ses serviteurs lui dirent, « Voulez-vous que nous allions l'arracher ?» Et il dit, « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, laissez-les croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Veuillez vous asseoir. Donc, je vous rappelle que dès dimanche prochain, donc, si Dieu veut, nous serons dans la nouvelle maison, donc à Ginal, à 3 km d'ici. Donc, les messes, bien sûr, ne changeront pas au niveau des horaires, toujours messe à 10h, mais à partir du dimanche prochain, donc dans la nouvelle maison. N'oubliez pas aussi que j'ai publié, surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet, le calendrier des retraites 2022. Donc, vous avez tout ça sur le site, sur la page d'accueil du site. Dame Marie, donc vous avez le calendrier des retraites pour 2022. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il y a beaucoup à dire sur l'évangile d'aujourd'hui. L'application à notre âme est très claire. Donc, ce champ que nous devons semencer avec du bon blé, c'est notre âme. Nous avons cette âme ne nous appartient pas, attention. C'est Dieu qui l'a créée. Mais nous en sommes les régisseurs. Nous devons protéger ce champ. Et le bon Dieu, le jour de notre baptême, a placé dans ce champ du bon grain. Et il demande à ce que ce grain fructifie. Il ne s'agit pas simplement de rendre au bon Dieu, le jour de notre mort, le nombre de grains qu'il a mis dans notre champ. Il exige une fructification du grain. Et selon le cas, soit 30%, soit 60%, soit 100%, tel que nous trouvons dans certains évangiles parallèles, partie d'évangiles parallèles à celle d'aujourd'hui. Et évidemment, le démon n'est pas très content. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir et pendant la nuit et il va ensemencer le champ, il va rajouter dans les sillons du mauvais grain, pour empêcher le beau grain de donner son fruit. Le rôle du démon, c'est donc d'empêcher d'une part le grain de pousser normalement, et si possible d'empêcher surtout la fructification de ce grain. Parce qu'il sait très bien que si le grain pourrit, bien, il ne donnera rien. Et donc il n'y aura rien à donner au bon Dieu. Alors essayons de voir un petit peu, décortiquer un peu cet évangile en s'aidant bien sûr des pères de l'Église. Première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le régisseur du champ dans l'histoire de l'évangile ici a fait une grosse erreur. Il a bien planté le champ, bien semencé le champ, il a préparé les sillons, il a mis les grains de blé, mais il n'a pas protégé son champ. Il n'a pas pensé que l'ennemi pourrait venir pendant la nuit et donc il n'a pas demandé à des serviteurs de venir garder le champ la nuit pour empêcher justement l'ennemi de venir et d'empoisonner le champ. Mais je pense que c'est la première des choses qu'il nous faut comprendre. Le bon Dieu nous demande de protéger notre champ. Il ne s'agit pas simplement de se dire, bon, ben, ça y est, le champ est prêt, le grain va pousser et moi je peux faire la sieste. Non, il faut protéger le champ de mon âme. Donc première question, comment peut-on protéger le champ de notre âme? Donc protège le champ de notre âme, surtout par trois moyens surnaturels. Premier, c'est la prière. Deuxième, c'est l'usage de sacrements. Et le troisième moyen, c'est la pratique de la vertu de pénitence. Les trois grands moyens pour protéger le champ de notre âme. Premier, bien sûr, c'est la prière. Quand je prie, je sais me mettre à genoux pour tout confier au bon Dieu. C'est déjà une protection énorme pour protéger le grain, la grâce sanctifiante qui est représentée par ce grain de blé qui a été planté dans mon champ par le bon Dieu. Et bien, si je prie, quand je sais me mettre à genoux pour prier, déjà, j'ai une protection extraordinaire du ciel. C'est une espèce de cuirasse de protection que je place sur mes épaules pour être sûr que le grain est bien protégé, que la grâce sanctifiante peut se développer, donner du fruit. Ça, c'est la première des choses à comprendre. Ensuite, avec cette prière, la prière du matin, la prière du soir, le chapelet tous les jours, par exemple, il faut rajouter évidemment la pratique des sacrements, surtout le sacrement de pénitence. À chaque fois que je pratique la vertu d'humilité en me mettant à genoux devant le représentant du bon Dieu et en disant au bon Dieu, en disant au ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché, que j'accuse mes fautes avec les dispositions nécessaires pour obtenir l'absolution et que le bon Dieu me donne l'absolution par la main du prêtre, eh bien, il est évident que c'est une deuxième cuirasse de protection que je rajoute sur mes épaules pour me protéger des assauts du démon. Pourquoi? Parce que la confession est déjà un acte d'humilité. Le démon a horreur de l'humilité parce que c'est le prince de l'orgueil. Il ne faut pas considérer, comme beaucoup, la confession comme une triste nécessité, comme quelque chose qu'on utilise uniquement à titre curatif après avoir fait tomber dans le péché mortel. Il faut aussi considérer la confession à titre préventif. À chaque fois qu'on se confesse, on protège son âme et on augmente le degré de grâce sanctifiante qui est en nous. C'est évident que si on a perdu la grâce sanctifiante, on reçoit ce qu'on appelle la grâce première, c'est-à-dire de nouveau le début de la grâce sanctifiante, puisqu'il a été détruit par le péché mortel. Mais si je suis en état de grâce et que je me confesse, en accusant non pas de péché mortel, parce qu'il n'y en a pas depuis ma dernière confession, mais au moins des péchés véniels, je vais augmenter le degré de grâce sanctifiante qui existe dans mon âme, le degré de charité, ce qu'on appelle l'augmentation de la grâce seconde. Et puis évidemment, il faut aussi utiliser sacrement de la Sainte Eucharistie. Sacrement de la Sainte Eucharistie est un moyen extraordinaire de protéger son âme. Puisque la Sainte Eucharistie, c'est l'introduction dans mon âme directement de la charité incarnée qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que je reçois par la Sainte Eucharistie le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Avec cette deuxième protection, la première protection, la prière, deuxième protection, les sacrements, troisième protection, la vertu de pénitence. Ces choses sont nécessaires. Saint Alphonse de Ligouri nous dit, celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Et notre Seigneur Jésus-Christ rajoute, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Voilà pour vous et pour moi. Donc la vertu de pénitence est nécessaire au salut à cause de la corruption du péché originel. Nous avons donc besoin de faire pénitence. Pas simplement d'accepter la petite pénitence donnée pour réparation à la fin de la confession par le prêtre. Nous avons besoin de faire pénitence. Pénitence contre les passions, pénitence contre nos défauts particuliers, pénitence contre certaines faiblesses que nous pouvons avoir selon les personnes. Même des choses très discrètes. La pénitence doit être faite de façon discrète. En principe, les gens autour de nous ne doivent pas voir que vous faites pénitence, mais nous devons tous faire pénitence, moi le premier. Ça sera de par exemple de mortifier certaines paroles méchantes que nous souhaiterions dire à personne auprès de nous, qui nous énerve, par exemple, savoir garder sa langue dans la poche, comme on dit. Ce sera de faire un effort pour ne pas trop manger les choses qu'on aime, et au contraire, manger sans rien dire, quelque chose qu'on aime moins. De ne pas se resservir d'un plat qu'on aime bien. Des petites choses comme ça, si c'est fait par amour pour le bon Dieu, ces choses-là nous apportent des grâces particulières. Donc c'est la façon de protéger notre champ. Je dois protéger mon champ par la vertu de prière, la vertu de raison, par l'usage des sacrements, également par la vertu de pénitence. Ça, c'est la première des choses à faire. Deuxième chose qu'il faut remarquer dans le texte, on le voit très bien que le maître du champ, lorsqu'on lui annonce que l'ennemi est venu pendant la nuit pour introduire de la zizanie, pour introduire de l'ivraie dans le champ, eh bien, il ne demande pas à ce qu'on arrache tout de suite l'ivraie. Il dit non, attendons. Tolérons l'ivraie aujourd'hui dans le champ, mais au moment de la récolte, là, on fera la séparation. Le bon grain sera mis dans mon grenier et le mauvais grain sera, la mauvaise herbe sera liée en gerbe et jetée au feu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est une allusion très nette au jugement particulier, au jugement général. Le jugement particulier, au jugement général, où justement il y aura une séparation qui sera faite entre les bons et les mauvais. Au bon, notre Seigneur Jésus-Christ va dire, venez posséder les bénis de mon Père, posséder le royaume qui a été préparé pour vous et pour les anges. Mais aussi la condamnation, éloignez-vous de vous maudits et allez au feu de l'enfer pour ceux qui ont voulu suivre le démon ici-bas. Et ce sont des choses extrêmement importantes à comprendre. Notre Seigneur Jésus-Christ tolère ici-bas le mal, et ça qu'il faut comprendre. Nous vivons dans un monde dans lequel l'ivraie est mélangée. Au blé. Faut croire qu'on puisse vivre dans un monde où tout le monde est bon autour de nous, où tous les gens sont catholiques et pratiquants et vivent en état de grâce autour de nous. Malheureusement, c'est pas possible. Le bon Dieu nous demande de vivre dans un monde pourri et d'être comme la lumière du monde et le sel de la terre dans ce monde pourri dans lequel nous devons vivre. Et nous devons, par notre façon de nous comporter, par notre façon de penser, notre façon d'agir, sur le plan professionnel, le plan social, le plan familial, être les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, selon ce qui nous est demandé, qui est différent pour chaque personne. On voit très bien que beaucoup de gens, si vous voulez, aujourd'hui, parmi nos amis catholiques, voudraient un petit peu un monde idéal. Mais ce monde idéal, il n'existe pas ici-bas, malheureusement. Il existera au ciel, mais pas avant. Ici, nous devons donc nous armer, nous protéger, parce que nous sommes obligés de vivre entourés de mal, entourés de gens qui vivent dans le péché, malheureusement. Donc il faut réussir à vivre dans ce monde sans être contaminé par l'esprit du monde. Mon Dieu ne nous demande pas de nous couper complètement du monde, aller vivre dans une grotte ou au sommet d'un arbre, c'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande, tout en vivant dans un monde corrompu, de ne pas nous laisser corrompre par les idées du monde. Mais si on voit très bien dans l'Évangile, si Dieu tolère le mal ici-bas, au moment de la récolte, il n'y a plus aucune tolérance. Là, c'est tolérance zéro. Il ne va pas dire, bon, on va accepter un petit pourcentage de mauvaises graines avec le bon grain. Non, à ce moment-là, il y a tolérance zéro. C'est-à-dire, seul le bon grain est mis dans le grenier et le mauvais grain est jeté en enfer. Et on peut aller beaucoup plus loin dans ces explications. C'est des choses que parfois nos fidèles ont un petit peu de mal à comprendre. Le bon Dieu exige de nous que nous acceptions toutes et chacune des vérités de la foi catholique. Et je vous ai déjà expliqué souvent que si je refuse même un seul point de la foi catholique, supposez qu'il y a 100 points de foi catholique, 100 dogmes de foi, si j'accepte 99 dogmes et que j'en refuse un, je ne peux pas dire que ma foi catholique est faible. Je suis obligé de conclure, si je refuse un dogme de la foi catholique, je n'ai plus la foi. Donc qu'on refuse un dogme de la foi catholique, ou 10, ou 20, ou 50, c'est la même chose. Je ne suis pas catholique. J'ai perdu la foi catholique si je nie un seul dogme de la foi, parce que en niant un seul dogme de la foi, j'accuse notre Seigneur de s'être trompé, de m'avoir menti sur un point. Et si j'accuse notre Seigneur de s'être trompé, de m'avoir menti sur un point, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, s'il nous a menti, ne peut pas être Dieu. Donc je nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ simplement en refusant un seul dogme de la foi catholique. Les conséquences sont énormes. Prenons un exemple tout simple. En ce moment, c'est la période où l'Église nous demande de prier pour les âmes du purgatoire. Donc, ne veillez pas. encore jusqu'à un mardi, je crois, d'aller tous les jours dans un cimetière pour prier pour les âmes du purgatoire, parce qu'il y a des indulgences plénières qui sont accordées pour les âmes du purgatoire si je vais dans un cimetière pour prier mentalement pour ces âmes du purgatoire. Très bien. Imaginez quelqu'un qui me dise, Monsieur l'abbé, je ne crois pas aux indulgences. Parce que les indulgences ont provoqué, soi-disant, la révolte de Luther. Luther s'est révolté contre le pape au XVIe siècle parce qu'il refusait les indulgences. Donc moi, je ne crois pas à ce système de comptabilité qui est une mathématique spirituelle qui est complètement ridicule. Je ne crois pas aux indulgences. Est-ce que je peux donner l'absolution à quelqu'un de ce genre? Non. Ah, mais il accepte tout le reste. J'accepte tout le reste. Tous les autres dogmes de foi. Mais vous niez un dogme. Ah, mais c'est pas un dogme très important. Tous les dogmes sont importants. Donc je ne peux pas vous donner absolution. Et on peut aller plus loin que ça. Imaginez quelqu'un qui se confesse, c'est un exemple que je donne, qui nie, de façon sciemment, en sachant très bien ce qu'il fait, qui nie un dogme de foi, donc en fait c'est un hérétique même s'il ne le déclare pas. Si je donne l'absolution à cette personne, alors qu'il me cache le fait qu'il nie un dogme de foi, je ne suis pas forcément interrogé sur tous les dogmes de foi à chaque fois que je confesse quelqu'un, c'est évident. Et le simple fait qu'il nie un dogme de foi rend sa confession invalide. L'absolution est nulle. Vous voyez comme il est important de comprendre toutes ces choses-là pour avoir l'intégralité de la foi catholique. Nous sommes des catholiques intégraux dans le sens que nous acceptons tous et chacun des dogmes de la foi catholique. D'autres choses sont, à mon avis, à tirer de cet évangile, il y a beaucoup de points, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais je vais au moins essayer de donner les grandes lignes, et puis après vous méditerez un petit peu sur tout ça. C'est le but du sermon, d'aider un petit peu à la pratique de l'oraison pendant la semaine, à partir des textes de l'évangile. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'on voit bien dans l'évangile la miséricorde qui est manifestée. Comment est manifestée cette miséricorde? La miséricorde du bon Dieu est manifestée par le fait que Dieu, justement, tolère le pécheur. Je viens de vous l'expliquer. Cette tolérance manifeste la miséricorde du bon Dieu. Lorsque les serviteurs viennent dire, est-ce qu'on voulait qu'on arrache tout de suite l'ivraie, qu'on jette tout ça au feu tout de suite? Non, on tolère. Pourquoi? Parce que Dieu espère toujours que, avec sa grâce, certaines personnes vont changer. L'ivraie représente le pécheur, le péché, l'hérésie, le mal. Et donc Dieu tolère le mal, espérant que les pécheurs, certains pécheurs au moins, vont se convertir. C'est pour ça qu'il leur laisse cette chance et qu'il ne va pas les condamner immédiatement. Ça, c'est la miséricorde. Mais aussi la justice qui est manifestée. La justice est clairement manifestée dans l'Évangile parce que s'il tolère ici-bas ce mélange du bien et du mal, au moment de la mort, là, on passe dans l'éternité et là, il n'y a plus de tolérance. Je viens de vous l'expliquer. Il n'y a plus de tolérance et à ce moment-là, c'est la justice qui va s'appliquer. Quelqu'un qui meurt en état de péché mortel ne peut pas aller au ciel. C'est absolument impossible, c'est métaphysiquement impossible parce que Dieu ne peut pas se contredire. Donc il peut tolérer, nous aider ici-bas à changer de vie, nous donner des grâces actuelles pour qu'on change de vie. Et ici-bas, on peut retrouver la grâce du bon Dieu après même un gros péché grave parce que le bon Dieu, dans sa miséricorde, pardonne à condition qu'on regrette et qu'on prenne les moyens de plus recommencer. On peut hélas retomber, puis reprendre l'état de grâce, etc., avoir une espèce de mouvement de haut et bas sur le plan spirituel. Mais une fois qu'on passe dans l'éternité, puisqu'on est dans l'éternité, on est hors du temps. Or, on a besoin du temps pour changer. Donc, dans l'éternité, il n'y a plus de changement possible. On voit très bien dans cet évangile à la fois la justice et la miséricorde. Un autre point qui me semble très important, c'est que plus on attend, plus c'est difficile. Si on essaye de se préoccuper de nettoyer le champ de son âme dès qu'on se rend compte que l'ivraie vient d'être plantée dans l'âme, on arrive à sortir l'ivraie du champ. Mais si on attend, qu'est-ce qui se passe? Les grains vont se multiplier, les mauvais grains vont se multiplier de façon exponentielle, pas de façon arithmétique. C'est-à-dire que ça va monter lentement au début et ensuite ça monte très 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 vite. Pourquoi? Parce que le démon, justement, multiplie les racines et quand on arrive à éliminer rapidement un péché. Quand on le prend dès le début, mais si on attend, ce péché va donner des racines de plus en plus profondes. Et au bout d'un certain temps, on ne peut plus enlever les racines parce que ça se multiplie partout. Les racines s'entrelacent sous terre, en plus on ne les voit pas, et du coup, ben, l'ivraie va se répandre partout dans le champ de mon âme. Et un dernier point qui me semble aussi important, c'est d'essayer de voir avec les pères de l'Église ce que représente cet ivraie. Ce n'est pas simplement le péché. L'ivraie, d'après les pères de l'Église, représente l'hérésie. Pourquoi l'hérésie? Parce qu'on ne peut pas distinguer au début les grains d'ivraie et les grains de blé, ils se ressemblent. Donc l'hérésie est quelque chose qui va prendre les couleurs de la vérité, au moins au début. Et on voit très bien comment les grands hérétiques, au début, ont travaillé avec les catholiques pour gagner leur confiance. Et ensuite, petit à petit, ils ont commencé à dévoiler leur plan machiavélique pour amener les catholiques loin de l'Église. On voit très bien avec tous les grands hérésiarques, par exemple Martin Luther. Et lentement, lentement, ils ont amené leurs fidèles à quitter l'Église catholique. C'est ce qui s'est passé avec le protestantisme. Et je pense qu'il y a un autre point sur lequel on peut insister, c'est que cette ivraie, l'ivraie est extrêmement dangereuse parce que l'ivraie interdit, empêche la contrition. Comme ça qu'il faut expliquer. L'ivraie empêche la contrition. C'est-à-dire que quand j'accepte l'ivraie dans mon âme, le démon prend la maîtrise de mon âme, et qu'est-ce que va faire le démon? Il va empêcher la contrition. Pourquoi? Parce qu'il sait que la contrition est nécessaire pour obtenir le pardon de ses péchés. Sans contrition, on ne peut pas obtenir le pardon de nos péchés, c'est absolument impossible. Vous pouvez dire tous vos péchés au prêtre, mais si vous ne regrettez pas vos péchés, vous ne prenez pas les moyens proportionnés pour ne pas les recommencer, votre confession est invalide parce qu'il n'y a pas une véritable contrition. S'il y a une contrition purement naturelle de ses péchés, mais qu'il n'y a pas de contrition surnaturelle, n'oubliez pas les conditions de la contrition d'après le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme traditionnel. Il faut la fuite des occasions prochaines volontaires de péché grave, mais il faut aussi une véritable douleur, nous dit le catéchisme. Une douleur qui soit interne, qui soit universelle, qui soit suprême, et qui soit aussi surnaturelle. Il faut que ça soit le fruit de la grâce du bon Dieu. Et donc, l'ivraie va empêcher cette contrition. Empêchant la contrition, l'ivraie, le démon va rendre le retour à Dieu impossible. C'est ce que veut le démon. Vous voyez, c'est important de comprendre toutes ces choses-là, pour nous protéger justement. N'oublions pas qu'en tant que catholique, le bon Dieu va. Le catholique de tradition devient, je dirais, un gibier de choix pour le démon. Vous devenez des gibiers de première classe. Pourquoi, vous et moi? Parce que justement, nous avons beaucoup plus reçu du bon Dieu. Et lorsque le démon attaque les âmes, il cherche surtout le gros gibier, pas le tout petit gibier. Le petit gibier, c'est facile à mettre dans l'escarcelle du démon. Il cherche le gros gibier. Qu'est-ce que c'est qu'un gros gibier pour le démon? C'est quelqu'un, justement, qui a compris toutes ces choses-là. Alors, il faut vraiment demander les grâces dont nous avons besoin au bon Dieu pour éviter de tomber dans l'escarcelle du démon. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire ce qu'un bon jardinier doit faire. Tous les matins, qu'est-ce que fait le jardinier? Il maintient son jardin impeccablement propre. Puis quand il voit une petite mauvaise herbe qui a poussé pendant la nuit, il l'arrache tout de suite. Il ne va pas se dire, oh ben, c'est une petite mauvaise herbe, c'est pas si grave que ça. Bon, je peux la laisser pousser. Mais si on la laisse pousser, qu'est-ce qui va se passer? Elle va grandir, elle va commencer à donner du fruit partout, faire tomber des graines, des mauvaises herbes partout, et puis il va y avoir des mauvaises herbes dans tout le jardin, tout va être envahi par les mauvaises herbes. Il fait pareil. Tous les matins, tous les soirs, examiner notre âme. Est-ce qu'il y a une mauvaise herbe qui poussait pendant la nuit? Est-ce que pendant la journée, j'ai laissé croître une mauvaise graine? Et tout de suite l'effacer? Parfois, il suffit d'un simple acte d'amour du bon Dieu. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon esprit, et je vous demande pardon de tout mon cœur, de tous les péchés que j'ai commis aujourd'hui. C'est un acte de charité, ça. Un acte de charité de ce genre est suffisant pour effacer tous les péchés véniels. Et même un acte de charité parfaite, si je regrette mes péchés de tout mon cœur par amour de Dieu, c'est suffisant pour effacer même les péchés mortels. C'est pour ça que la pénitence est nécessaire. À chaque fois que je fais pénitence, à chaque fois que je communie un état de grâce, à chaque fois que je me mets à genoux pour prier, j'efface les péchés véniels. Puisque tous ces actes nous permettent de purifier notre âme. On fait comme le bon jardinier qui enlève les mauvaises herbes qui ont poussé pendant la nuit et le soir, faire pareil. Donc bien faire ce qu'on appelle l'examen de conscience, qui est absolument fondamental, pour bien comprendre, attention, je dois garder le champ de mon âme tout propre, le plus propre possible.
Donc, si évidemment on se rend compte, ah ben là, il y a un gros péché mortel qui a été commis, c'est plus une mauvaise herbe, une petite mauvaise herbe de rien du tout, c'est déjà un arbre qui commence à pousser, là je ne peux plus l'arracher par moi-même tout seul, j'ai besoin vraiment, vraiment de grâce spéciale et il faut que j'aille me confesser. Et voilà ce qu'il faut faire, mes chers frères. Donc, aimons notre âme parce que l'âme n'est rachetable que par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en méditant ces choses-là, en comprenant, on comprend la gravité du péché et les conséquences du péché dans notre âme, en méditant sur ce qu'a coûté le péché. Le péché a coûté le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la flagellation? Pourquoi le couronnement d'épines? Pourquoi le portement de la croix? Pourquoi la mort du Fils de Dieu dans son humanité le vendredi saint? À cause de mes péchés. À cause des péchés des autres aussi, mais à cause des miens aussi. Donc, n'ai pas oublié tout ça. Alors, demandons, mes bien chers frères, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à purifier nos âmes. La Sainte Vierge Marie, c'est son rôle. C'est son rôle. C'est la grande jardinière de nos âmes. Donc, tous les soirs, il faut l'inviter dans le jardin. Qu'elle vienne, on la prend par la main, Sainte Vierge Marie, venez un petit peu visiter mes terres, là. Dites-moi un peu ce qu'il faut faire. La Très Sainte Vierge Marie a de bons yeux. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc elle va visiter nos terres, dans nos âmes, dans notre âme, et puis elle va dire, là, il y a quelque chose qui pousse là. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas une bonne herbe, c'est une mauvaise herbe. Et là, il y a un sillon qui est mal tracé. Et là, il y a des traces de chenilles qui sont en train de tout salir sous les fleurs du jardin. Il faut enlever tout ça. Et elle va nous indiquer tout ce qu'il faut faire, parce qu'elle, étant mère de Dieu, elle sait parfaitement, elle a un amour de la perfection que nous n'avons pas, nous, à cause du péché originel. Donc demandons à la Très Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, toutes ces grâces dont nous avons besoin pour purifier notre âme. Nous arrivons très rapidement à la fin de l'année liturgique. N'oubliez pas que la nouvelle année commence au premier dimanche de l'Avent pour les catholiques. Et le premier dimanche de l'Avent, c'est à la fin du mois de novembre, on est bientôt là. Donc utilisons justement toutes ces grâces pour augmenter en nous l'amour du bon Dieu, augmenter en nous le degré de charité, pour que nous soyons prêts le jour où le bon Dieu viendra nous dire « Rends compte de ta gestion ». Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.